Laudetur Jesus Christus.
Radio Vatican, le journal, Hélène Destombes.
Bonsoir. Le pape François exhorte à être attentif aux détresses des églises d'Orient et à prendre soin des pierres vivantes blessées et dispersées. Il recevait ce matin en audience au Vatican les participants à l'assemblée plénière de la ROACO, l'organisme d'aide aux églises d'Orient, au terme de 4 jours de travaux. Dans son discours, le Saint-Père a évoqué la situation en Syrie, dans la région du Tigré, en Éthiopie, au Liban, mais aussi en Arménie, encourageant les membres de la ROACO à poursuivre leur précieuse mission dans ces terres martyrisées. Le compte-rendu de Delphine Allaire.
Le pape s'est d'abord ému du sort du Liban, pays englué dans une triple impasse politique, sociale et économique, et pour lequel il convoque un sommet le 1er juillet avec des responsables chrétiens. Le Saint-Père a demandé de prier donc en particulier l'Esprit-Saint pour la terre du Cèdre. Il a ensuite développé le contexte israélo-palestinien, peuple pour lequel nous rêvons toujours que l'arc de paix donné par Dieu à Noé s'étende dans le ciel, un ciel trop souvent sillonné par des appareils qui apportent la destruction. C'est attristant. Le souverain pontife, attentif aussi aux cris qui montent de Syrie, le scandale de 10 ans de conflit, de millions de personnes déplacées à l'intérieur, à l'extérieur du pays, toujours otages de logiques partisanes dans cette nation tourmentée. L'Éthiopie également est dans le cœur du pape, tout comme l'Arménie, où il se rendait en voyage apostolique il y a pile 5 ans. François a fini par s'adresser aux nonces en poste dans tous ces pays, les exhortant à se concentrer sur l'essentiel, soit l'annonce de l'évangile. En effet, a assuré le pape, il est nécessaire de reconstruire bâtiments et cathédrales, mais nous devons d'abord avoir à cœur les pierres vivantes, blessées et dispersées.
Delphine Allaire, un éclairage à retrouver à l'adresse vaticannews.va. Le pape salue l'action d'un foyer d'assistance aux personnes pauvres et marginalisées du diocèse de Mar del Plata en Argentine. Dans un message vidéo, il remercie les collaborateurs de la Nuit de la Charité et du foyer Nazareth pour l'attention qu'ils portent aux sans-abri. En Argentine, la pandémie de coronavirus a aggravé la précarité, la pauvreté et l'Église tente de soutenir la population. La frappe aérienne mardi en Éthiopie sur un marché de la ville de Togoga dans la province du Tigré a fait 64 morts et près de 200 blessés. C'est ce qu'indique aujourd'hui un responsable santé de l'administration régionale de transition. Le gouvernement affronte dans cette région les rebelles tigréens depuis novembre dernier. Il doit maintenant assumer les conséquences de ce bombardement condamné par l'ONU, les États-Unis et l'Union européenne. Les explications de Noé Ochebaudan.
Tout simplement horrible, selon un humanitaire stationné au Tigré. La frappe aérienne qui a visé la petite ville de Togoga a fait un carnage. Difficile encore d'obtenir un bilan précis aujourd'hui. Les soldats éthiopiens limitent fortement l'accès à la localité qui se trouve à environ 30 kilomètres de la capitale provinciale Mekele. Plusieurs ambulances chargées de blessés et des ONG ont même été retenues au checkpoint. Le porte-parole de l'armée éthiopienne justement a démenti la frappe pendant plus de 24 heures avant de finalement reconnaître qu'un bombardement avait bien eu lieu. Mais selon lui, ce sont uniquement des combattants tigréens déguisés en civils qui ont été visés. Une version contredite par les organisations humanitaires et les diplomates, l'Union européenne et les États-Unis ont publiquement dénoncé l'attaque aérienne. Cette bavure intervient alors que des combats reprennent dans plusieurs zones de la province, mettant à mal la version gouvernementale d'une région sous contrôle et pacifiée. Addis Abeba, Noé Ochebaudan, Radio Vatican.
Au Mali, les 4 catholiques enlevés lundi dernier par des hommes armés dans le centre du pays ont été libérés. En revanche, on est toujours sans nouvelles du prêtre qui les accompagnait, l'abbé Douillon, curé de la paroisse de Ségoué. Le groupe se rendait à San pour assister aux obsèques de l'abbé Oscar Terra lorsqu'a eu lieu la prise d'otage. L'Union européenne doit rechercher un contact direct avec la Russie et créer des mécanismes pour répondre aux provocations de Moscou. Ce sont les déclarations de la chancelière allemande Angela Merkel juste avant le sommet des 27 à Bruxelles. Le président français Emmanuel Macron a lui appelé un dialogue ambitieux et exigeant. La relation avec Moscou est l'un des sujets sur la table des discussions des 27. L'UE pourrait ouvrir la voie à une reprise des sommets avec la Russie, une perspective vivement critiqué par l'Ukraine. L'ancien président philippin Benigno Aquino est décédé ce jeudi à l'âge de 61 ans. L'une de ses sœurs a indiqué qu'il était mort paisiblement dans son sommeil. Il souffrait d'une insuffisance rénale et de diabète. Durant son mandat, il a mené un programme de lutte contre la corruption et introduit d'importantes réformes économiques. L'actuel chef de l'État, Rodrigo Duterte, a décrété un deuil national de 10 jours, invitant, dans un communiqué, le peuple à s'unir dans la prière et à laisser de côté les différends. Le président sri-lankais vient de gracier 16 détenus liés au tigre tamoul, un geste inédit qui intervient une semaine après un rappel à l'ordre des Nations Unies sur les détentions sans inculpation en vertu de la loi antiterroriste. Le pays a été déchiré pendant 37 ans par des combats entre les forces gouvernementales et les séparatistes tamouls qui ont fait plus de 100 000 morts. La Chine va ouvrir une procédure contre l'Australie devant l'OMC pour des mesures anti-dumping à l'encontre de ses exportations d'éoliennes et d'autres produits manufacturés. Une annonce de Pékin quelques jours après le dépôt d'une plainte devant l'Organisation mondiale du commerce par Canberra contre des surtaxes douanières imposées par les autorités chinoises sur le vin australien. Les relations entre les deux pays sont tendues depuis un an après des appels de l'Australie à une enquête sur les origines de l'épidémie de coronavirus. Retour dans notre dossier sur les élections en Arménie. Dimanche dernier, les Arméniens ont voté largement en faveur de Contrat Civil, le parti du Premier ministre Nikol Pachinian qui a remporté 54% des votes. Malgré une abstention élevée, 51%, c'est pour le chef du gouvernement une victoire qui lui redonne une légitimation après la défaite subie par l'Arménie en novembre face à l'Azerbaïdjan au sujet du Haut-Karabakh. La crise politique en Arménie s'est achevée avec les élections, a déclaré Nikol Pachinian, alors qu'il avait été vivement contesté dans la rue par ses opposants et par l'armée. Au pouvoir depuis 2018, après une révolution de velours, il va pouvoir poursuivre ses réformes pour assainir notamment la vie politique, ayant promis la dictature du droit et de la loi. Mais le contexte géopolitique n'est guère favorable à l'Arménie et cette victoire, toute légitime qu'elle soit, ne devrait pas changer grand-chose à la situation du pays. C'est l'analyse de Talin Terminassian, professeur d'histoire contemporaine de la Russie et du Caucase, directrice de l'Observatoire des États post-soviétiques.
Ce score est étonnant dans la mesure où il s'agit d'un gouvernement qui a incarné une défaite absolument cuisante et donc ce gouvernement aurait dû, en bonne logique, soit donner spontanément sa démission, soit en tout cas être invalidé, et cela n'a pas été le cas. Alors, qu'est-ce que cela veut dire de cet électorat? Ça veut dire, selon moi, tout simplement que c'est un électorat qui continue à avoir un comportement post-soviétique, justement, c'est-à-dire qui vote massivement pour le pouvoir en place. Cela dit, Pachinian avait une popularité réelle, vous le savez, depuis la révolution d'avril 2018 qu'il avait porté au pouvoir. Mais on est quand même un peu stupéfait devant ce score majoritaire qui le reconduit dans une légitimité qui repose surtout sur ce qu'il a réalisé ou sur ce qu'il escompte réaliser dans le domaine de la politique sociale. Dans ce sens-là, finalement, l'électorat arménien semble ne s'être préoccupé que de questions de politique intérieure. Et c'est très étonnant car l'Arménie se trouve actuellement dans une situation extrêmement dangereuse sur le plan géopolitique, mais ça ne semble pas du tout avoir joué dans cette élection.
Nikol Pachinian a déclaré au lendemain de sa victoire que maintenant il allait pouvoir en quelque sorte instaurer la dictature de la loi. Est-ce que c'est là aussi sur ce terrain-là, le terrain de la moralité dans la vie politique, de la lutte contre la corruption, qu'il est attendu le plus par ses électeurs?
Cette lutte contre la corruption est effectivement son principal mot d'ordre, mais dans cette invocation permanente, il y a quelque chose de l'ordre du populisme de la part de Nikol Pachinian qui a su jouer de cette carte de façon très convaincante apparemment auprès des électeurs. Maintenant, en ce qui concerne cette histoire de dictature de la loi, en effet, il l'a proclamé à plusieurs reprises dans différents meetings, et cette dictature de la loi, je ne sais pas très bien là encore une fois ce que ça annonce, puisque il a expliqué que 2018 c'était la révolution de velours et il a laissé entendre qu'on allait passer dans une espèce de deuxième étape. Et donc, on peut interpréter de différentes manières cette annonce et s'inquiéter en tout cas de cette nouvelle phase, parce que cela laisserait entendre que Nikol Pachinian va encore une fois s'intéresser au nettoyage de la corruption à l'intérieur de son pays, mais son pays lui-même est totalement menacé sur ses frontières et l'otage en quelque sorte du rapprochement turco-azéri dans un contexte que je trouve en tout cas à titre personnel extrêmement dangereux.
Interrogé par Xavier Sartre, Tallinn Termination était l'invité du dossier de Radio Vatican. C'est la fin de cette édition. Merci de votre écoute. Très belle soirée. Au revoir.